goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue, vous êtes sur RFI, c'est le goût du monde. Êtes-vous de ceux qui aiment les mots, les savours et les faites tourner dans votre bouche pour mieux les goûter comme une bille sucrée, une praline caramélisée? Des mots qui transportent l'imagination et vous font apparaître des plats en sauce, un diable sur le feu, une religieuse en dessert et des madeleines dodues. Oui, vous aussi? Alors, bienvenue, vous êtes sur les bonnes ondes. Pour une belle expression des goûts, notre allié est la langue française, si riche, si belle, quand elle cuisine, elle mitonne, foisonne et macaronne. Avec nous, pour la décrypter, la raconter, s'en étonner aussi sans doute, trois invités, un complice, notre maître mot ici à RFI. Bonjour Yvan Amar.
Bonjour Clémence.
Bonjour Jean-Mata Cristol.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'être ici avec nous, vous enseignez la cuisine. La pâtisserie aussi,
oui.
Au lycée Albert Demain,
c'est ça.
À Paris, les mots de la cuisine vous ont accompagné dans votre enfance.
Absolument, oui. Je viens d'Auvergne et on a tout un patois culinaire et gastronomique qui se répand un peu partout, puisque les Auvergnats à Paris, c'est un petit peu une petite mafia.
C'est une belle histoire en tout cas, les Auvergnats à Paris. Bonjour Antoine Violette.
Bonjour Clémence.
Éditeur, co-directeur de la maison qui édite le livre que tous les apprentis, étudiants, amateurs de cuisine aussi ont avec eux, sous l'oreiller, sur leur étagère, la cuisine de référence des éditions BPI. Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, pour commencer cette émission sur la langue française et la cuisine, puisque c'est la fin de la semaine de la langue française, je voulais vous poser une première question à la source. Ce mot cuisine, d'où vient-il?
La cuisine, c'est ce qu'on fait cuire, j'imagine. Cuisine, cuisson, cuisson, coquere en latin. Ouais, il faut que ça mitonne, que ça frissonne. On prend le temps qu'on veut, mais au départ, j'imagine que la cuisine, c'est le fait de cuire. Et que cuire quelque chose, c'est quand même une belle opération chimique qui permet de transmuter un matériau a priori pas très comestible en quelque chose de délicieux.
Cuisine, donc, on a aussi la pâtisserie. Est-ce que ce sont deux langues très différentes l'une de l'autre?
Sont deux esprits des arts culinaires qui sont complémentaires mais qui sont différents. Le matériel déjà est différent. La plaque en cuisine n'a pas la même dimension que la plaque de pâtisserie. Une plaque de pâtisserie, c'est 60 cm par 40 cm. Et puis, ce qu'on appelle la gastronorme en cuisine, c'est un petit peu plus petit. C'est 53 et quelques par 30 et quelques. Ce qui fait que même les fours n'ont pas la même dimension. Et par extension, les mots sont communs. Il y a des mots qui sont très spécifiques. Vous avez cité macaroné tout à l'heure, c'est un terme de pâtisserie.
Que vous m'avez soufflé, qui est aussi un terme de pâtisserie.
Oui, parce que c'est un joli terme qui explique beaucoup de choses sur le macaron.
Pâtisserie, c'est devenu non seulement une langue, mais c'est également devenu un commerce où on vend des gâteaux. Ce qui n'est pas le cas de la cuisine. Qu'est-ce qui est devenu la cuisine?
La cuisine, elle s'est exprimée à partir du moment où les restaurants sont devenus des lieux de convivialité, des lieux public, si je puis dire, même si on les fréquente en privé. Ça date de la moitié du XVIIIe siècle à peu près, au moment où, un peu avant la Révolution, on se met à avoir une mutation des cabarets ou des auberges qui se mettent à servir à manger, là où les auberges faisaient principalement le gîte et là où les cabarets servaient principalement à boire. Et donc on se met à pouvoir manger dans ces endroits-là, d'une façon qui est extrêmement codifiée, puisque jusqu'à ce moment-là, on a des corporations de différents métiers, on a des corporations de bouchers, de pâtissiers. Les pâtissiers, pour revenir un peu sur ce langage, le pâtissier, c'est celui qui fait l'usage de la pâte. Donc c'est-à-dire que vous pouviez avoir un pâtissier qui faisait par exemple des pâtés en croûte ou des petits pâtés tout simplement parce qu'il avait l'usage de la pâte. Là où un charcutier par exemple, qui est celui qui cuit la chair, le charcutier, lui n'avait que le commerce d'une petite partie de viande, et là où le boucher avait le commerce de tout le reste de la viande. Donc la restauration, dans son sens moderne, elle arrive que finalement tardivement.
Et ces corporations étaient assez concurrentes, je crois.
Elles étaient très concurrentes puisque vous aviez même des corporations pour des métiers comme les houblayeurs, donc qui faisaient les oublis, qui sont une espèce de petite gaufre qui était blanchie, bouillie, puis frite. Et donc la corporation des oblayeurs était très distincte de celle des pâtissiers, même si pour nous, on a l'impression que ce serait sensiblement le même commerce.
Mmh. La différence est peut-être là aussi, c'est qu'on a commencé à se restaurer hors de chez soi.
Oui.
Avec le restaurant, alors qu'auparavant, on restait chez soi et donc la cuisine est peut-être plus ménagère.
Alors oui, il y a effectivement la notion de cuisine bourgeoise qui va arriver tardivement au XVIIIe siècle. C'est 1791 avec François Massialo qui sort un livre qui s'appelle « Le cuisinier royal et bourgeois ». Et la cuisine de restaurant, elle arrive en réalité à partir du moment où les nobles se séparent peu à peu de leurs cuisiniers parce qu'ils sentent le vent tourner et qu'ils vont devoir se séparer de leurs possessions en France pour aller s'exiler là, à des endroits où on tranche les têtes un petit peu moins facilement.
Yvan Amar, de nouveaux mots en fonction de si cuisine aristocratique, cuisine bourgeoise ?
Certainement, mais ce qui m'étonne, c'est d'apprendre justement que ce livre de cuisine qui apparemment a fait date a été édité en 1791.
Oui.
C'est vraiment à la césure.
C'est le cuisinier royal et bourgeois, et le fait qu'on parle de cuisine bourgeoise, ça remet le curseur entre les deux, entre ce qui était la cuisine royale, c'est-à-dire une cuisine d'apparat pour des gens avec beaucoup de moyens, et la cuisine bourgeoise. À ce moment-là, la cuisine bourgeoise, c'est la cuisine de ville, c'est la cuisine des gens, on va dire, qui ont un peu de moyens, mais des citadins.
Comment est-ce qu'elle se construit, cette langue ? J'imagine qu'elle voyage, qu'elle est empreinte de mots d'ailleurs, d'autres pays, d'autres continents.
Elle voyage et elle se construit également par strates, comme on vient de le dire. Il y a le moment où on fait la cuisine pour les autres, et il y a un effet de distinction, d'une certaine façon, de montrer son pouvoir, de montrer sa richesse, de montrer sa noblesse et même sa noblesse de goût. Et on invite des gens et on leur sert des mets, des choses qui sont très bonnes, mais qu'on n'a pas, bien sûr, cuisiné soi-même. Parce que quand on a une certaine richesse, on a aussi un cuisinier. On se souvient, par exemple, chez Harpagon, dans Molière, Harpagon, il est pingre, et il est tellement pingre qu'il a quelqu'un qui lui fait à la fois la cuisine et qui conduit son petit carrosse, etc. Il est cocher et cuisinier. On donne aux autres la cuisine qui est faite par les serviteurs, mais en même temps par des professionnels.
D'où le mot de service, d'ailleurs, également.
Oui, absolument. Et puis, Clémence, comme vous le disiez, c'est sûr que la cuisine, depuis extrêmement longtemps, a adopté un certain nombre d'habitudes linguistiques, d'habitudes de vocabulaire qui venaient d'ailleurs, et que c'est une belle façon quand même d'être très hospitalier aux cultures d'ailleurs. Les goûts du monde, ils arrivent par la cuisine, c'est sûr.
On est d'accord. D'Italie notamment.
Beaucoup.
Est-ce qu'il y a quelques mots comme ça qui vont être un peu plus flagrants, des cultures qui vont s'imprégner davantage dans la langue française et dans la culture culinaire française, Antoine ?
Il y a beaucoup de liens entre la cuisine française et la cuisine italienne. Et pas uniquement le risotto qui est arrivé sur nos tables maintenant depuis un long moment, mais dans la langue française, on parle de cuisine française ou continentale. Cette cuisine, c'est vraiment des racines communes entre la France et l'Italie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Le sabayon est un exemple. C'est très savoureux, le sabayon. Ce sont des jaunes de battue avec du sucre, avec un petit peu d'alcool. Il y a deux hypothèses pour les origines. Ça pourrait être l'hommage à un saint patron italien, San Baione, ou ça pourrait être un hommage au chevalier Baglioni. Mais les deux sont liés apparemment à Catherine de Médicis.
Elle aimait la pâtisserie, je crois.
Alors, elle aimait la pâtisserie. Il y a plein de choses qui circulent au sujet de Catherine de Médicis et sa supposée influence sur la cuisine française. C'est un sujet qui a été largement revu par Jean-François Revel dans un ouvrage qui s'appelle « Un festin de paroles », où il explique qu'il y a effectivement une influence de la cuisine italienne sur la cuisine française, mais qui est en fait antérieure à l'arrivée de Catherine de Médicis, qui elle-même est un petit peu la victime de cette mode italienne depuis François Ier, qui s'était attaché les services d'architecte ou d'artiste, puisqu'il avait un goût de l'Italie. Les Français et l'Italie, c'est une grande histoire d'amour depuis Charles VII. Catherine de Médicis serait peut-être venue avec des légumes ou des pâtisseries italiennes. Ça reste quand même encore très discuté.
Dans les allers-retours entre les langues, Yvon.
Ce qui est étonnant, puisqu'on parle de la cuisine italienne et qu'on a l'impression, d'après ce qui vient d'être dit, que c'est une cuisine aristocratique qui est importée par une princesse qui devient reine, Médicis, qui vient quand même des meilleures, des plus grandes familles. Mais on a aussi la soupe. Et la soupe, voilà un mot qui vient aussi de l'italien, avec un sens qui a tout à fait changé, mais qui évoque bien sûr une cuisine beaucoup plus ordinaire, quotidienne, populaire. Mais la zuppa, qu'est-ce que c'est ? C'est une tartine, quoi. Enfin, oui. C'est un bout de pain. Mais c'est un bout de pain qu'on trempe. Et on va le tremper dans la soupe, et après, l'un aura tellement d'influence sur l'autre que c'est ce qu'on boit qui va prendre ce mot de soupe. Mais on se souvient de l'origine du nom soupe et de son premier sens dans des expressions toutes faites comme tremper comme une soupe. Tremper comme une soupe, c'est quand il pleut, vous arrivez, vous dégoulinez, je suis trempé comme une soupe. Ça veut dire j'ai pris une saucée, ça veut dire j'ai pris la pluie, et on se rappelle que la soupe, c'est une tranche de pain qui est trempée justement dans le bouillon.
À propos de pain, vous m'aviez confié une histoire de toast.
Le toast, on a l'impression en effet que c'est un anglicisme, mais ce sont d'abord les Anglais qui ont emprunté, comme c'est extrêmement souvent le cas, qui ont emprunté le mot à la langue française, et d'ailleurs au latin, puisque toaster, ça veut dire griller. Donc qu'est-ce que c'est qu'un toast ? Ça a pris une orthographe, disons anglo-saxonne, T-O-A, mais au départ, c'est ce qui est simplement du pain grillé. Et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, je crois, au Québec, des rôtis, tout simplement. On disait rôtis au 19e.
On va commencer à rôtir
mais
également.
C'est amusant que vous parliez du toast qui est passé par sans doute l'anglo-normand à un moment ou à un autre, alors que, par exemple, on parlait du risotto tout à l'heure. Une des premières étapes du risotto, c'est la tostatura, c'est le fait de faire griller le riz. D'accord. Donc finalement, on s'y retrouve, quoi.
Premiers allers-retours.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Cosmic Love, amour cosmique de Jane sur RFI, sur la playlist de RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, des mots à la bouche pour dire et guider peut-être les gestes. On n'en a pas encore parlé, ça, des origines des mots qui décrivent quoi? Est-ce que ça décrit une texture, un geste, une action, peut-être un résultat espéré? On vous a quitté sur un peu de soupe, du pain trempé dans la soupe. On aimerait bien vous retrouver un petit peu autour de rôti. Parce que le rôti, il a un terme un peu particulier, ce rôti. Qui veut parler du rôti? Qui s'en saisit?
Le rôti, c'est avant tout un mode de cuisson, ce qu'on appelle une cuisson sèche. Pendant très longtemps, on parlait des cuissons par convection ou par concentration. On est passé un petit peu à côté de ça. Maintenant, on parle de cuisson sèche ou des cuissons humides, c'est-à-dire avec de la vapeur ou dans de l'eau ou dans du bouillon. Et puis des cuissons mixtes, quand vous parliez du braisé, quand on commence avec du gras et qu'on finit avec du liquide ou l'inverse. Et donc le rôti, c'est à la flamme.
On ne n'est pas cuisinier. Antoine,
mais on devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Cette phrase a été citée par Brillat Savarin, mais en fait, elle est retrouvée chez un poète qui s'appelle Berchou, du XVIe siècle, qui est originaire de Roanne.
D'accord.
Un petit coucou aux trois gros en
absolument.
Passant. Qui est une jolie phrase qui semble dire qu'on a le talent de la maîtrise du feu ou on ne l'a pas. Le poste de rôtisseur dans les cuisines, c'est Escoffier qui a codifié l'organisation des brigades de cuisine telles qu'on les connaît maintenant.
Auguste Escoffier qui nous a aussi légué les offices, les brigades, tout plein de catégorisations.
Qui s'est inspiré de son expérience pendant la guerre de 1870 au contact de l'organisation militaire et qui en a retiré cette organisation très logique des cuisines. Et un des postes clés qu'il avait identifié comme le saucier, mais c'était le rôtisseur. Et le rôtisseur, c'est vraiment un poste qui demande qu'on maîtrise le feu. Donc on maîtrise ses cuissons, on parle encore de maîtriser ses cuissons aujourd'hui pour un cuisinier professionnel. Et dans les brigades de cuisine telles qu'on les connaît maintenant, dans certaines équipes, il y a encore quelqu'un qui est en charge de rôtir, mais plus généralement, il y a un poste qui est plutôt destiné à la viande, un poste qui est plutôt destiné au poisson. D'ailleurs, cuire la viande, c'est une cuisson très précise, et cuire le poisson est une cuisson encore plus précise, qui demande beaucoup de délicatesse et de maîtriser le feu.
Vous m'avez donné envie parce que vous m'avez parlé de sauce, et la sauce, c'est quand même... Voilà encore un mot qui nous interroge. Parce que la sauce, il en a des sens divers.
Elle en a beaucoup et elle désigne des choses extrêmement différentes, mais la sauce, c'est ce qui donne le goût. C'est-à-dire qu'évidemment, la sauce vient du sel, et on le retrouve dans un mot hispanique qu'on connaît souvent en France, c'est la salsa, en fait. Et la sauce, bizarrement, non seulement donne le nom d'un certain nombre de produits qui accompagnent les mets, mais de temps en temps sont les produits eux-mêmes. Si vous êtes familier de l'Afrique, vous savez que de temps en temps,
on mange de l'Afrique de l'Ouest,
on mange la sauce feuille. La sauce feuille, c'est plus que la sauce, c'est le plat.
À propos de plat, justement, de mots, de plat, de cuisine, quand je regarde une terrine, est-ce la terrine, le plat, l'objet, qui est quoi? Ou peut-être le diable que j'ai cité en introduction, ou alors une casserole peut-être?
Oui, la casserole, la cassole, la cassolette, vous retrouvez ça dans plein de préparations où le plat va désigner à la fois son contenu et l'objet lui-même. Si je peux faire un rapprochement avec l'actualité, où maintenant on vous dit que steak de soja, on ne peut plus le dire, mais de la même façon que... On dit encore de nos jours fromage, et fromage désignerait une préparation à base de lait de quelque animal que ce soit, alors que fromage à l'origine c'est la forme qu'on va donner au cahier. C'est pour ça que, donc, en italien, on reparle de l'italien, fromage en italien ça se dit formaggio. Donc on a gardé le mot forme, et de cette forme on a fait découler le produit. Pareil avec le cassoulet, la cassolette, ce genre de choses, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des plats qui bientôt seront nommés en fonction d'un ustensile nouveau peut-être, à voir.
Du fromage, on a même la fourme, qui est un nom de fromage assez générique. Qui sont, alors vous allez me dire si je suis sur la bonne voie, est-ce que la fourme c'est toujours du bleu?
Non, la fourme c'est une unité de mesure ou une forme cylindrique de fromage pour une certaine quantité de fromage. Moi je suis auvergnat, donc évidemment les meilleurs
fromages... La fourme d'Ambert, vous connaissez.
Moi je suis juste à côté, donc la fourme de Montbrison est
la meilleure. Une des meilleures qui soit. Donc la fourme, effectivement, selon qu'on soit dans les hauts plateaux et qu'on fasse des meules, ou qu'on soit un peu plus bas et qu'on fasse de la fourme c'est le cylindre de fromage lui-même.
Les œufs, la crème, sont des vestiaires, parce que vu le nombre de mots que l'on utilise pour traiter l'œuf, pour traiter la crème, pour traiter le beurre, on pourrait faire un inventaire à la Prévert avec ça. On les fouette, on avait parlé aussi, Yvan Hamar, de tomber les épinards.
Est-ce que vous connaissez cette expression, tomber les épinards?
Tomber les épinards,
moi, je l'ai entendue récemment et elle m'a absolument réjoui.
Tomber au beurre.
Tu tombes les épinards. Je dis, comment? Oui, tu tombes les épinards. Je dis, oui, bien sûr. Bien sûr.
On tombe les épinards, on fatigue la salade.
On foisonne.
On foisonne, on clarifie les œufs.
On peut clarifier le beurre.
On clarifie le beurre.
On clarifie les bouillons.
On clarifie
pour en
les
faire
bouillons,
des consommés.
Pour... En décantant ou en écumant, ou en mettant un piège à impuretés, un petit peu de blanc d'œuf pour capter les petites impuretés dans un bouillon. On monte la crème.
On la fouette aussi.
On monte les blancs en neige. On n'envoie pas le commis chercher l'échelle à monter les blancs en neige. Ça, c'est fini. On ne fait
plus. Ou l'huile de coude.
Ou le fer à défriser le persil, non plus.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est, selon vous, de votre expérience, des mots de la cuisine au quotidien, dans vos livres, dans les mots de la cuisine au quotidien, dans l'usage de la langue, est-ce que c'est le mot qui décrit le geste? Est-ce que c'est le geste qui a inspiré le mot? Est-ce que lequel de la poule et de l'œuf?
Je pense que l'ustensile va donner le verbe, par exemple, poêler la poêle, braiser la braisière, sauter la sauteuse ou le sautoir. Donc il y a forcément une espèce de porosité entre le matériel et le verbe.
Peut-être deux verbes différents, très différents. Blanchir. Blanchir, on va le retrouver partout. En cuisine, on va le retrouver en pâtisserie. Du côté de la cuisine, il semblerait qu'à l'origine, blanchir ait désigné l'action de nettoyer les légumes terreux. Les betteraves, les navets.
On les plongeait dans
l'eau.
Donc
on les plongeait dans
l'eau. Pour les nettoyer.
Et pourquoi blanchir? Parce qu'en fait, ça se faisait dans les offices. Et les offices qui étaient à l'arrière des cuisines étaient également juste à côté de là où travaillaient les gens qui s'occupaient du linge. Et les blanchisseurs, les blanchisseuses. Donc ça, c'est une petite explication qui a été remise en avant par un des auteurs qui marque un petit peu les mots de la cuisine française, c'est Joseph Fabre, quand il a écrit le dictionnaire universel de la cuisine pratique, en 1887, ça date pas d'hier. Lui, il dit qu'il est passé dans une cuisine où, justement, dans l'office, on blanchissait les légumes et à côté, on blanchissait le linge. Donc, pour lui, il y a une porosité entre les deux. D'accord. Et en même temps, blanchir, on parlait de tomber les épinards, on peut aussi les blanchir, c'est-à-dire les plonger très rapidement et les ressortir, les mettre dans l'eau glacée, comme on va faire avec les haricots verts pour bloquer une jolie couleur verte. Et puis, si on va du côté de la pâtisserie, quand on fouette des jaunes d'œufs avec du sucre, ça s'appelle aussi blanchir. Donc, ça, c'est pour l'action. Et puis, si on va du côté des macarons, macaronner, c'est un des secrets pour faire des macarons avec le four et l'hygrométrie, c'est assez technique. Quand on prépare des macarons, à un moment donné, on va utiliser des blancs montés en neige, que l'on va mélanger avec de la poudre d'amande et du sucre et peut-être une pointe de colorant si on veut donner une couleur. Et le geste de macaronner, qui va être d'aller chercher avec une corne, par exemple, un joli autre mot, au fond du cul de poule, on va aller chercher comme ça, puis on va rabattre comme si on pliait sur le dessus. Un des secrets du macaron, c'est que si on mélange et qu'on se met à touiller comme ça, ben, ça va pas marcher. Il faut macaronner, il faut aller chercher au fond et rabattre sur le dessus. Donc là, pour le coup, macaron a donné macaronné.
Mais c'est un mot extrêmement mystérieux que le macaron, parce qu'il laisse le linguiste absolument perplexe. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Il semble que ça remonte à un grec, mais un grec tardif, un grec byzantin, et ça aurait pu, et je mets tout ça au conditionnel parce que j'y étais pas, hein, je suis vieux mais pas à ce point-là, ça aurait désigné une soupe d'orge.
Ah oui,
et ensuite, paraît-il, un repas funèbre. Comment est-ce que ce mot qui désigne un repas funèbre, qui a une certaine prestance quand même, parce qu'il faut honorer le mort, comment est-ce que ça a donné la friandise que vous venez d'évoquer, et peut-être la pâte italienne, parce que le macaroni. On se dit quand même qu'il y a peu de chances qu'il soit totalement différent. Il doit y avoir des cousinages lointains.
On ne dit pas macaroni en italien, on dit macaroni avec deux C et un H. Et je crois savoir que c'est deux branches linguistiques.
Ce serait autre chose.
Oui, à mon avis, c'est encore autre chose.
En tout cas, on peut faire plein de choses. On peut donc macaronner, souffler, sucré, salé, le soufflé aussi.
Ça aussi. Le soufflé, c'est le fait d'incorporer un appareil. Donc...
Alors, appareil.
On se rend compte quand on décrit qu'il faut vraiment avoir une base de vocabulaire assez importante avant même de pouvoir décrire une autre opération. Un appareil, c'est une préparation plus ou moins liquide qui va désigner une première étape dans une recette. Donc, pour faire un soufflé salé, on va généralement incorporer un appareil qui est à base de béchamel. Et pour faire un soufflé sucré, ce sera une préparation qui ressemble plutôt à une crème anglaise ou une crème pâtissière. Donc on additionne ça avec des blancs montés, pas trop fermes, sinon ça graine.
Mais qu'est-ce que ça veut dire alors
grainé, c'est lorsqu'on a battu trop longtemps les blancs et qu'il y a une partie de la protéine de l'œuf qui se sépare de l'eau, puisque le blanc d'œuf c'est 90% d'eau et le reste c'est l'albumine. Et donc c'est pour ça que par exemple, on met une petite pincée de sel pour monter les blancs, pour fluidifier les blancs. De la même façon qu'à l'inverse, on va mettre du vinaigre dans l'eau quand on va pocher des œufs, puisque le vinaigre va avoir tendance à resserrer l'albumine sur elle-même, donc pour avoir des œufs pochés bien arrondis, sans barbe, on parle de barbe, alors qu'on mettra du sel dans les blancs pour les monter, pour les fluidifier. Ça ne va pas les faire monter plus vite, mais ça va permettre de mieux les monter.
Donc on a des mots pour décrire le résultat, pour décrire ce que l'on attend. Et c'est vous qui les éditez, les mots, Antoine Violette. Et ça évolue beaucoup, la manière dont on les édite.
Les mots évoluent et en même temps, il y a une grande transmission qui se fait de génération en génération. Parce que quand on regarde les livres de cuisine, premier livre de recettes tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une liste d'ingrédients et ce que l'on appelle une progression. Tailler, découper, cuire, démouler, ainsi de suite. C'est un auteur qui s'appelle Jules Gouffet, qui était un élève d'Antonin Carême. Carême, c'est celui qui a créé la toque, le premier qui s'est fait appeler chef. Mais à l'époque, si on ne savait pas faire les bases, on ne pouvait pas faire.
On est d'accord pour dire qu'en fait, c'est extrêmement récent. Le livre qui permet de cuisiner.
C'est très récent. Ça date d'il y a à peu près 30 ans.
Ce qui est intéressant dans les éditions BPI, qui sont quand même les livres de référence, ces livres sont écrits avec des mots. Puis au fur et à mesure, vous avez introduit des pas à pas en photo. Et maintenant, des vidéos. Alors, on va parler de ça, mais d'abord, on va se rendre à Paris, dans le 10e arrondissement, dans un restaurant qui s'appelle, quelque part, Les Abysses, en l'occurrence. Florian Barbaro, qui est chef cuisinier et propriétaire de ce restaurant, donc s'amuse beaucoup avec les cuisines de référence.
Je croyais que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui se mettaient à faire des recettes qu'on ne peut pas forcément reproduire. Et je me suis dit, bah, en fait, ce serait sympa de faire les recettes qui sont dans la cuisine de référence, faire quelque chose de très accessible, ouvert à tous et qui parle à tout le monde et peut faire progresser tout le monde. Mes parents, par exemple, qui suivent les recettes de temps en temps, les bases de la cuisine. Je vais chercher les termes qui sont tout à la fin du livre. Je m'amuse un petit peu à les expliquer, mais d'une façon un peu plus cool pour aussi la génération de maintenant ait envie de regarder et d'apprendre.
Comment est-ce que vous servez du terme ?
Je me limite pas juste à donner la définition du mot. Je pense que derrière chaque terme, il y a une anecdote et ça amène aussi un petit côté un peu cool et fun qui donne envie de rester et d'apprendre le terme que je dis souvent à la fin de la vidéo.
On pourrait croire que c'est une forme de dictionnaire. Il a beaucoup évolué, ce livre. La première fois que vous l'avez eu entre les mains, qu'est-ce qu'il signifiait ?
Bah ça, c'est un peu une bible, ce livre pour nous. C'est pour ça qu'il s'appelle La cuisine de référence. La première fois, je pense que ça fait pareil un petit peu à tous les apprentis. Ça nous fait peur d'abord parce que c'est un grand livre avec beaucoup de pages et beaucoup de termes qu'on ne connaît pas. Et après, voilà, au fur et à mesure, on plonge la tête dedans et on se prend au jeu. Aujourd'hui, c'est ce qui me plaît aussi, c'est que beaucoup de gens, même qui ne sont pas du métier, me demandent où acheter ce livre. C'est une petite partie de gagner parce qu'il est hyper intéressant et au final, ouvert à tout le monde.
La transmission, parce que toutes vos vidéos, enfin la plupart, commencent par « Hello mes petits apprentis ».
Le « Hello mes petits apprentis », c'est vraiment en fait une blague où je me suis dit... Tout le monde dit coucou, salut les amis, machin. Et en fait, je vais apprendre les bases, donc je vais dire hello mes petits apprentis. Ça me faisait beaucoup rire. Et c'est une accroche aussi qui identifie ce que je fais. Je suis aussi très proche des personnes qui me suivent. Ça me permet d'évoluer et de faire du contenu qui leur est vraiment dédié.
Un mot qui vous plaît ?
Fleurer, par exemple. Alors, je trouve que c'est joli. comme mot. Et c'est juste mettre de la farine délicatement sur un plan de travail, que ça fasse une couche très fine. D'ailleurs, il y est sur mes réseaux sociaux. J'ai clarifié aussi que j'aime bien, parce que clarifier, c'est un peu à l'image de la langue française, c'est qu'un mot peut vouloir dire plein de choses. Et là, avec la même orthographe, on a clarifié des œufs, clarifié du beurre, clarifié un consommé. Ouais, clarifié, c'est un mot qui représente bien ce qu'est la cuisine, complexe, et la langue française aussi.
Florian Barbaro, du restaurant Les Abysses, dans le 10e arrondissement à Paris. Alors, quand vous enseignez la cuisine, ces mots, ils sont indispensables ?
Oui, une des premières choses qu'on apprend à nos étudiants, c'est de maîtriser le vocabulaire de base, parce que en cuisine, on a besoin très tôt que nos élèves sachent faire des opérations élémentaires. Ces opérations élémentaires, elles sont toujours avec des ustensiles qu'ils n'appellent pas de la même façon chez eux. Une casserole, il y a 1000 casseroles, 1000 tailles, 1000 façons d'appeler une casserole. Et quand on vous demande un sautoir, une russe ou voilà, un éminceur ou un couteau d'office ou un filet de sol, qui est un couteau, on ne demande pas la même chose et on ne va pas faire la même chose. Donc le vocabulaire, c'est l'essence de notre travail d'enseignant pour ensuite enseigner la pratique. Donc la théorie vient, comme toujours, souvent avant la pratique.
Ça a changé beaucoup les choses, vous, d'incorporer, c'est un terme culinaire, mais d'ajouter aux mots des vidéos et des photos ?
Oui, beaucoup.
Ne serait-ce que dans la manière de parler et d'écrire ensuite,
dans peut-être. La manière d'écrire, la manière de constituer un livre, mais c'est vraiment, il y a une trentaine d'années, c'est vraiment ce passage de ce qu'on appelle dans l'édition le texto noir, c'est comme un roman, hein. C'est un texte. Puis avant, on donnait une liste de recettes, et vraiment, le passage, c'est d'ajouter les photos en pas à pas pour montrer où on met son couteau, comment est-ce qu'on va replier la pâte, par exemple, et puis ensuite, c'est la vidéo qui permet vraiment d'aller au cœur de la pâte, de montrer le geste, et ça, c'est très important, parce que quand on se forme, les mots, c'est vraiment la base. Et la vidéo permet de rendre les choses plus attractives pour des jeunes qui parfois découvrent un métier. Et puis en termes de précision, ça permet véritablement de montrer cette précision de geste. Et ça a changé la façon de créer ces livres. Comme un jeu de construction, une brique, c'est un produit. Un mur, c'est une technique. L'ensemble de la maison, ce qui va être la recette, ça va être justement la construction de la recette. On suit le plan. Une fois qu'on maîtrise ses briques et ses murs, et ben on crée sa propre maison, la propre maison de ses rêves. Et ça, c'est la créativité des cuisiniers et des pâtissiers.
Et on en fait de la littérature, n'est-ce pas, Yvan Amar ?
On en fait de la littérature, mais ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il y a tout un vocabulaire qui est la propriété des professionnels. Et que les gens qui ne font pas partie de ces professions n'ont pas accès à ce vocabulaire qui paraît extrêmement opaque.
De plus
je
en
vous
plus.
Entends parler, je comprends rien. Ça me fait saliver.
Sur les réseaux sociaux, on apprend la cuisine et poser aux vidéos des mots, ça permet d'avoir une démarche qui est complète, comme l'expliquait Florian Barbaro tout à l'heure d'ailleurs.
Les mots sont des outils et c'est la précision de ce vocabulaire que l'on retrouve parfois dans des langues étrangères, parce que dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de mots français qui perdurent. Béarnaise, béarnaise peut-être, mais béarnaise quand même. Et pour transmettre un geste, pour apprendre un métier, ce vocabulaire très précis, il est très utile, et il est utile pour conserver les savoirs et les recettes. Il y a une très jolie phrase, j'aime beaucoup, c'est « les mots sont les outils des passeurs de savoir », que j'ai entendu de la bouche de Gabriel Payasson, qui est un pâtissier, qui a créé la Coupe du Monde de pâtisserie, qui a énormément voyagé. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur emmener la technique française et rencontrer d'autres techniques qui viennent d'un petit peu tous les pays. Quand on transmet, quand on forme des jeunes ou des moins jeunes, ça va beaucoup plus vite d'utiliser cette petite boîte à outils que sont les mots pour expliquer le geste. On évoquait fleurer tout à l'heure, jeter un petit peu de farine sur une planche. Pour les gens de la profession, ça dit tout de suite ce que c'est.
Le goût du monde se referme, merci beaucoup. À vous trois, Jean Matacristol, on vous suit sur les réseaux également et on vous lit puisque vous avez publié Comme on dîne chez nous, le grand livre des mots et des recettes de nos régions, aux éditions Le Robert. Et vous êtes donc enseignant au lycée Albert Demain, dans le 7e arrondissement à Paris. Yvan Amar, les mots de l'actu sur RFI. On peut vous écouter, on peut vous lire aussi, puisque vous avez publié les mots de l'actualité chez Larousse, dernièrement. Puis à la danse des mots, en podcast évidemment, pour vos oreilles, c'est délicieux. Antoine Violette.
Nous travaillons avec l'équipe des éditrices des éditions BPI, un nouveau gros livre qui s'appellera Restauration et hôtellerie de référence. Ça va être un petit peu toutes ces procédures opérationnelles qu'on retrouve dans les hôtels et dans les restaurants, aussi bien dans les cuisines. On va parler aussi de la réception d'un hôtel, comment on accueille le client, comment est-ce que l'on prépare les chambres, et qui permet à quelqu'un qui se prépare à ses métiers à regarder un petit peu tous les services.
Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous tous qui nous écoutez en direct ou en podcast, par petits bouts ou en série. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne semaine à tous. Une semaine.